Alors bonjour à tout le monde. Je voudrais remercier Jean Lionel pour la fraîcheur de cette louange de ce matin. Puis Aurore, merci pour ce chant avec des paroles profondes que tu nous as proposées. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Je vous laisse méditer ces paroles. En tout cas, je retiendrai dans ce chant cette phrase qui sonne comme une prière. Seigneur, que je sois comme toi. Je crois que ça peut être la prière et la conclusion déjà par anticipation à ce partage que nous allons avoir maintenant. Alors vous m'en excuserez, j'en suis sûr, je n'ai pas prévu de PowerPoint, d'affichage. Aussi, je vais vous laisser le temps de choisir le texte dans vos Bibles. Alors ces derniers temps, j'ai relu les trois épîtres de l'apôtre Jean. Et je vous propose ce matin la lecture de la troisième épître de Jean, qui m'est apparue extrêmement pratique. Il semble qu'il en ressort que vivre dans la vérité va de pair avec vivre dans la cohérence. Donc, troisième épître de Jean, alors soit vous avez vos Bibles, soit vous avez ouvert vos smartphones pour y suivre le texte. L'ancien à Gaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés, ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai des actes qu'il commet, en répandant contre nous des paroles mauvaises. Non content de cela, lui-même ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Alors les vérités et les conseils de la parole de Dieu ne sont pas toujours faciles à entendre, faciles à accepter. De sorte que l'on peut se poser la question, quelle légitimité que celle de Jean à nous écrire ses épîtres, à nous apporter des conseils de relations de vie chrétienne, de vie en Christ, de vie dans la vérité, de pratiques d'amour, de pratiques d'hospitalité. Alors, en dehors, bien sûr, de l'inspiration divine des Écritures, bien des raisons à cette légitimité. D'abord, il y a son expérience personnelle qui vient justement de sa proximité avec Christ. Jean est l'une des personnes qui ont le plus accompagné Jésus. 3 années passées à ses côtés comme témoin privilégié, comme élève qui bénéficie des expériences qui servent à sa croissance spirituelle. Il a été avec le Seigneur sur la montagne de la Transfiguration où il a la joie de voir la gloire du Seigneur. Un effet booster, s'il en est, pour les disciples. Ensuite, il est là lors du partage de la scène, comme le disciple bien-aimé qui couchait sur le sein de Jésus, lui demande qui va le trahir. Un disciple attentif, qui a de l'intérêt pour l'autre, désireux de connaître, désireux d'apprendre. Il est là lors de l'arrestation de Jésus, et là c'est un vécu douloureux qui le ramène à son niveau humain, pas meilleur que les autres. Il est là lors de la crucifixion, où Jésus, tout en le consolant, lui confie un rôle majeur de protection. Il est là quand Marie découvre le tombeau vide et court vers lui, vers ce disciple bien-aimé ainsi que vers Pierre. Il est le premier à atteindre le tombeau vide. Empressement, certainement mêlé de surprise et d'incrédulité, mais peut-être aussi d'espérance. C'est encore lui le premier qui reconnaît Jésus au lac de Tibériade, après sa résurrection. Dans un autre livre, l'évangile de Jean fait référence à ce disciple bien-aimé. Et il s'achève sur ces 2 versets. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Nous savons que son témoignage est vrai. La légitimité de Jean est irréfutable. Enrichi par son vécu, il se présente dans ses 2 derniers épîtres comme l'ancien, certainement lié à son âge avancé, hein, mais également à son expérience et à son autorité spirituelle. Comme témoin oculaire de la vie de Jésus et de ses enseignements, Jean sait reconnaître ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Il sait diriger, il sait démasquer, il sait encourager tour à tour. Où en sommes-nous de nos expériences de vie avec le Seigneur? Savons-nous, comme Jean, mettre à profit ce que nous avons appris de notre vie avec le Seigneur? Appris de cette vérité qui est en nous, afin de vivre une vie de foi équilibrée. Jean a appris à aimer de l'amour de Christ, c'est-à-dire à aimer dans la vérité, Et c'est ce qu'il démontre dans cette troisième épître. Prouver son amour, mais rester dans la vérité. Il y a des similitudes et des convergences entre la seconde et la troisième épître de Jean, telles que, par exemple, la priorité de la relation, l'amour mutuel, la priorité à l'entraide, la priorité à l'échange, la volonté de démasquer et de rejeter les imposteurs, les faux docteurs, la priorité à rester dans la doctrine de Jésus-Christ, à toujours vivre le bon exemple, le vivre et le suivre. Cela nous montre combien ces deux épîtres sont liées, vont dans le même sens, c'est-à-dire rester dans la vérité, pratiquer la vérité dans nos relations et ne pas faire preuve d'incohérence. La troisième lettre de Jean dont il est question ce matin est une lettre telle qu'on aurait pu l'écrire nous-mêmes, c'est-à-dire courte. Celle de Jean tenait sur un papyrus dont les Égyptiens avaient uniformisé ou standardisé les dimensions aux alentours de 29 cm de long à 22 de large, ce qui équivaut à peu près à un format A4 de nos jours. Donc, un petit mot. Jean-Lionel, short message, c'est ça hein? Voilà, on pourrait dire ça. Un SMS. Hein? Un message succinct comparé à d'autres livres de la Bible et à la Bible elle-même. Moins de 300 mots en 15 versets. Mais toute la parole de Dieu est utile, même pour le plus court des écrits du Nouveau Testament. Après des grands enseignements de la première épître de Jean, succèdent la seconde et la troisième comme des champs pratiques d'application. La première épître était destinée aux différentes assemblées qui étaient en Asie mineure. La seconde est adressée à une femme, Kyria, et à sa famille. Et la troisième que nous avons lue, encore plus personnelle, à une seule personne, à Gaius, le bien-aimé. Le mot-clé de la troisième épître est la vérité. Jean utilise ce terme 6 fois, et même 7, en seulement 15 versets. La définition de la vérité dans cet épître, selon Jean, c'est d'agir selon l'amour. Et cela conformément, en conformité à la foi chrétienne et à notre obéissance à Jésus-Christ, qui nous demande d'agir ainsi, c'est-à-dire à pratiquer la vérité dans nos vies d'Église et dans nos vies de relations chrétiennes. Alors généralement, les orateurs apportent un message de la part du Seigneur au bénéfice de l'Église. Et pour eux-mêmes, bien sûr, par voie de conséquence et parfois même de priorité. Moins nombreuses sont les fois où les prédicateurs s'adressent directement aux anciens, aux responsables. Mais c'est ce que j'ai choisi de faire en partie ce matin, en m'adressant directement une exhortation personnelle, comme membre responsable avec d'autres. Bien évidemment, il n'est pas exclu que chacun, en tant que serviteur de Dieu dans l'Église, se sentent concernés et peut-être même invités à l'être. Pourquoi cette orientation? Parce qu'il me semble que cette lettre qui nous est parvenue, elle ne nous est parvenue que par la réalité de la situation d'un responsable nommé Diotrephe. Sans son attitude, il est fort probable que nous n'aurions pas cette troisième épître de Jean entre les mains. Dans les deuxièmes et troisièmes, c'est le thème de l'hospitalité qui ressort comme une pratique de vérité à vivre et à partager. Dans la deuxième, c'est contre l'hospitalité, c'est-à-dire l'hospitalité qui serait destinée aux faux docteurs. Et Jean use de son autorité pour dire qu'il ne faut pas recevoir de telles personnes, même pas les saluer. Dans la troisième, celle que nous allons voir, c'est en faveur de l'hospitalité, et cela sous deux aspects. Comme un modèle à pratiquer de manière générale et en particulier pour les serviteurs de Dieu, et comme un contre-témoignage quand l'hospitalité n'est pas pratiquée. L'apôtre Jean va donc insister sur le bon exemple à suivre en le mettant en relief par le mauvais exemple à ne pas suivre. D'après ce que nous lisons, nous comprenons que l'hospitalité est une activité primordiale qui trouve pleinement sa place dans cette expression « vivre dans la vérité ». Il semble que la solidarité exercée dans l'Église du premier siècle est un exemple à suivre pour nous, particulièrement dans ces temps de difficultés pour les enfants de Dieu qui vont grandissante, tout spécialement pour ceux qui ont à cœur de répandre ou de défendre l'Évangile dans des lieux difficiles, des pays où l'Évangile est mis à mal, où tout est opposé au christianisme. Et j'en dis en quelque sorte que ces gens-là, qui veulent promouvoir l'Évangile, la défendre, sont des exemples et donc dignes d'être soutenus par les Églises. En toutes sortes de soutiens, et entre autres, sur le plan de l'hébergement, de l'hospitalité, et sur le plan financier. Il apparaît que les chrétiens de l'Église primitive acceptaient les risques, acceptaient le dénuement au bénéfice de la solidarité. L'apôtre écrit à Gaius pour l'encourager dans le chemin de l'amour, de l'accueil et de l'aide. Qui d'entre nous n'a pas besoin d'un tel encouragement dans ce sens-là? Il ne suffit pas de bien commencer sa vie chrétienne. Il y a un but encore plus grand, qui est de croître dans l'amour, sans jamais se lasser de faire le bien. Au verset 3, je lis: « Je me suis fort réjoui quand des frères sont venus et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. » La vérité. Le vécu de Gaius dans la vérité réjouissait le cœur de l'apôtre. Les bontés envers les frères, les égards envers d'autres, était le témoignage que les frères portaient à l'égard de Gaius. Et leur témoignage en était rendu de manière très claire. Des frères sont venus et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Et cela produisait bien sûr une très grande et très forte joie à l'apôtre. Jean fait en quelque sorte l'éloge de la pratique de l'hospitalité. Une des caractéristiques de l'exercice des dons dans la vérité est de réaliser nos manquements à leur pratique au regard des besoins existants. Pour être plus clair, plus je me mets au service des autres, plus je constate combien la nécessité en est grande. Le souhait de Jean n'est pas de minimiser ce qui est fait, mais il veut plutôt encourager Gaius à avancer, à progresser dans ce courant d'amour, quand il écrit « Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu ». Accueillir, c'est bien. Aider à leur voyage, c'est encore mieux. Si d'autres refusent de le faire, ou ne le font pas, toi, Gaius, fais-le, c'est bien. Nous n'en avons pas forcément la notion, mais quiconque pratique l'hospitalité prend une grande part dans le service de leurs hôtes. Verset 8, « Afin d'être ouvrier avec eux dans la vérité. » De manière solennelle, Jean s'adresse à Gaius et lui dit « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais pratique le bien. » Diotrephe, dont il est question dans les versets qui précèdent cette exhortation de Jean, était certainement l'un des responsables prédicateurs de l'Église, mais il faisait clairement ce qui est mal. Gaius devait éviter d'imiter le mal. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Alors nous ne pouvons pas affirmer que Diotrephe était absolument et directement ou personnellement visé par cette expression « celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu ». Mais son caractère autoritaire et ses agissements suscitaient de sérieuses inquiétudes, tout autant qu'il débouchait sur de mauvaises influences pour l'Église. Sans doute que Diotrephe était un bon prédicateur, voire un bon enseignant, mais sa pratique dans l'assemblée était un contre-témoignage. Il y avait incohérence entre ce qu'il prêchait, sans aucun doute vérité, amour, compassion, et ce qu'il pratiquait réellement en matière d'accueil, d'hospitalité et de soutien. Sans doute illustre-t-il aujourd'hui le tempérament autoritaire ou la tendance de certains anciens ou responsables d'Église à dominer sur les autres, alors même qu'il y a égalité d'autorité et surtout de responsabilité entre chaque ancien ou responsable selon ce que nous en décrit le Nouveau Testament. Le verset 9 nous dit « Diotrephe aime à être le premier ». Alors ça, c'est difficile à lire. C'est difficile à entendre. Il y a au moins deux manières d'être grand parmi tous. Celle du monde, en s'imposant avec une autorité réelle ou imaginée. Ou celle qui vient du ciel, c'est-à-dire de Dieu, en étant le serviteur de tous. On peut facilement réaliser que Diotref avait malheureusement choisi de diriger l'Église, selon la perspective et l'autorité humaine, et du coup Jean prévoyait de rappeler les actes qu'il commettait, les mauvaises paroles qu'il prononçait et le fait qu'il empêchait d'autres de pratiquer le bien. Cette lettre est une forte illustration de l'importance d'une cohérence entre ce que nous disons croire être bien et ce que nous pratiquons réellement. Tout l'accent de cet épître est mis sur l'importance d'avoir un comportement digne de la vérité, digne de Jésus-Christ, digne de la foi que nous professons. Alors je vous rassure, mais je remercie le Seigneur de tout mon cœur que de telles pratiques ou comportements tels que celles de Diotref ne se trouvent pas dans notre rassemblement. Mais l'exhortation toute personnelle de Jean à veiller sur notre cohérence de foi et de pratique de vie dans l'Assemblée, et en dehors d'ailleurs, s'adresse à chacun des responsables de notre Église, s'adresse à chaque serviteur de Dieu, et nous le sommes tous, parce que nous sommes appelés à être des modèles les uns pour les autres. Si je ne prends pas personnellement compte de cette exhortation de Jean, je risque fort de ne pas faire un bon usage de la vérité qui est en moi, de ne pas faire un bon usage de la parole de Dieu, et particulièrement de cet épître-là qui nous est laissé. Gaius est invité par Jean à ne pas imiter ou à ne pas se laisser influencer par telle ou telle manière d'être ou de faire des autres, en l'occurrence celle de Diotref, mais plutôt de continuer à progresser dans cette vie de vérité qu'il démontre, à aller plus loin dans l'affection, plus loin dans l'amour, plus loin dans le soutien des frères et des sœurs. Alors, par l'intermédiaire des apôtres, le Seigneur donne aux membres de son Église des enseignements relativement simples, pratiques, et quand on les regarde, ça coule sous le sens. C'est compréhensible de tous. La difficulté, c'est que ces enseignements s'adressent à des humains faillibles que nous sommes. Et cet épître, comme les autres, cet épître ne vaut que parce que chacun de nous en fait réellement. Cet épître ne vaut pour ce que chacun de nous en fait réellement. Pour terminer, si Jean montre par le cas de Diotref le contre-exemple à la bonne manière de vivre l'amour dans la vérité, cette troisième épître n'est pas là pour nous décourager. Bien au contraire. L'apôtre Jean souligne en premier chef, et il conclut d'ailleurs cette épître de la même manière, tout ce qui est bon est digne d'être pratiqué. Il débute et termine par tout ce qui est bon et bien d'être pratiqué. Alors, comme Kyria dans la deuxième épître de Jean, Gaius réjouit le cœur de Jean et donc celui de Dieu. Mais il nous est également proposé comme excellent témoignage de vie celui ou celle de Démétrius, encore un inconnu, comme Gaius et Kyria. À croire que c'est dans l'anonymat que les meilleures choses selon Dieu se pratiquent et trouvent toute leur efficacité. Gaius est invité à considérer qu'il n'est pas seul, mais que dans le silence et sans doute dans les moments difficiles, Démétrius, dont personne jusque-là n'avait entendu parler, qui n'était sans doute pas un orateur hors pair, a démontré une pratique de vie chrétienne dont tous, de manière unanime, rendent un très bon témoignage. La semaine passée, j'ai regardé vite fait une émission, en partie en tout cas, qui désignait un lieu privilégié où l'on pouvait, où on peut contempler les étoiles à l'œil nu. Et je me demandais comment les auteurs de l'Ancien Testament ont pu parler de la splendeur et du nombre des étoiles, alors même qu'ils ne possédaient pas les instruments que nous avons aujourd'hui. Il est vrai qu'à l'opposé de leur situation antique, de nos jours, depuis nos grandes villes sans cesse illuminées, on ne peut apprécier la beauté du ciel et des étoiles. Alors j'ai la chance, sans doute comme vous dans d'autres lieux, au moins une fois par an, de me trouver dans un lieu éloigné des feux de la ville, en pleine nature, comme ces auteurs anciens. Et je réalise que la vision du ciel, dans l'obscurité et le silence, est tout simplement extraordinaire. Dans l'obscurité et le silence. Et c'est ainsi que la belle pratique de vie chrétienne brille, dans l'obscurité et dans le silence. Ainsi en était-il de Kyria, de Gaius et de Démétrius. Des personnes qui ne faisaient pas grand bruit, quasi méconnues, mais qui brillaient par la pratique de la vérité, de l'amour dans la vérité, de l'hospitalité dans la vérité. Je rends grâce au Seigneur pour tous ceux et celles qui vivent et pratiquent de cette manière de vivre la communion dans notre Église. Nous en parlons souvent avec les anciens. Comme des étoiles qui brillent comme des étoiles, dans des lieux obscurs ou difficiles. L'un des privilèges de l'ancien n'est pas le fait de bénéficier d'un titre, si biblique soit-il, mais c'est assurément de connaître et donc d'apprécier que des frères, ce que des frères et des sœurs font de bien dans l'Église et qui ne se voient pas. Et en tout cas pas au grand jour. Nous sommes encouragés à veiller les uns sur les autres, les anciens envers les membres de l'Église, mais l'Église se doit aussi de veiller sur leurs anciens, sur leurs responsables. Alors certes, pour faciliter leur tâche, comme cela est prescrit dans le livre des Hébreux, mais également pour veiller sur eux, de sorte qu'il reste dans un esprit de serviteur. Notre épanouissement spirituel, j'entends épanouissement spirituel personnel et d'Église, trouve sa croissance dans le fait de vivre de manière pratique la vérité de notre foi. Dans sa première épître, Jean nous dit que tout ce qu'il écrit, il l'écrit pour les plus jeunes. Il en a été question ce matin. Pour les plus jeunes dans la foi, ainsi que pour les pères, ces chrétiens matures spirituellement. Et que tout son conseil pour tous, c'est de vivre en cohérence avec la personne de Christ. Et je cite donc l'apôtre, Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous connaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Et le Seigneur lui-même de préciser dans l'évangile de Jean son commandement. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen.
J'aimerais finir ces moments de culte en reprenant les deux versets de Luc 18 et en ayant d'un côté dans la tête ce contre-exemple de Diotrèphe et d'un autre ce bel exemple de Jésus. Luc 18, verset 16. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et on pourrait dire mes frères et sœurs, on pourrait dire mes anciens, on pourrait dire, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant, n'y entrera point. Recevons le royaume de Dieu comme des enfants dans la simplicité et la foi. Prions. Père Céleste, tu nous as encore encouragés ce matin à vivre en cohérence avec notre foi. Et Seigneur, nous te prions avec notre petite foi, Seigneur, que nous puissions te laisser toujours plus à l'œuvre dans nos vies, que ça soit pour nous transformer déjà personnellement et ensuite pour être des bénédictions là où tu nous places, parmi nos frères et sœurs, à l'école, au travail, dans nos familles. Et Seigneur, tu vois aussi ces moments de un petit peu de pont et de congé du mois de mai, et tu vois qu'on va être placé à divers endroits, et on te prie aussi d'être des lumières là où tu nous places. Veuille bénir encore cet après-midi et toute cette préparation et aussi ces moments de joie et de jeu, et que vraiment, Seigneur, ton nom puisse être glorifié. Amen. Bonne semaine à chacun. Pour ceux qui restent, je regarde Anne-Laure, donc on mange à 12h30. C'est ça, pique-nique tiré des sacs et ensuite on installe la salle. Ok, donc à 12h30, c'est le repas. Voilà, bon appétit, bon dimanche à chacun. Ah, bah, super. Ouais.